Nous sommes ce dimanche en route vers Pâques. Pâques où nous allons nous rappeler à nouveau de notre rédemption. Rappel de cette croix qui nous est chère. Rappel que la croix est à la fois un point de convergence de l'amour de Dieu et de la justice de Dieu. On aime beaucoup, particulièrement dans ce temps-ci à Pâques, parler de l'amour de Dieu. Souvent, on aime plus parler de l'amour de Dieu que de sa justice. Plusieurs ont du mal à considérer que le Dieu de justice que l'on voit souvent dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que le Dieu d'amour qui nous est prêché dans le Nouveau. Pourtant, lorsqu'on regarde à la croix, on voit un Dieu juste qui justifie par amour et par grâce l'injuste. Le Dieu juste qui justifie le coupable, en faisant porter l'injustice du coupable sur le dos du juste. Trouvez-vous ça juste, vous autres? Le Dieu juste fait porter votre injustice sur le dos d'un juste. Vous appelez ça de la justice? Ça me semble injuste, cette affaire-là. À moins que le juste s'offre volontairement pour l'injuste. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Voyez-vous, lorsqu'on pense de la justice humaine, il n'y a pas de commune mesure avec la justice de Dieu. Notre humanité a perdu beaucoup de sa notion de justice. Il y a quelques semaines, je parlais avec un policier, pas parce que je m'étais arrêté, là, je jouais au hockey avec quelques-uns d'entre eux. Puis un policier me demandait, est-ce que tu crois encore à la justice? Je dis, ça vient d'un policier, ça. Il me semblait que ça devait être le premier à y croire encore un peu, en tout cas en avoir soif. J'ai dit, oui, j'y crois encore à la justice. En tout cas, je crois à une justice fondamentale. La mort frappe tous les hommes encore aujourd'hui. Mais je crois à la justice parce qu'il va venir un jour où Dieu va juger avec justice toutes les injustices qu'il a sur la terre. Un jour, tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus et proclamera que lui est juste. Ce matin, on va regarder dans l'Évangile de Luc le procès de Jésus. Le procès, les procès, c'est souvent l'endroit où on espérait le plus de justice. C'est pour ça qu'on appelle ça la cour de justice, le palais de justice. On va regarder le procès de Jésus. Je sais que vous avez une petite photo, hein? on va y revenir. on va y arriver dans quelques instants. Mais on va regarder le procès de Jésus. Et le texte va nous présenter plusieurs failles de cette justice humaine. De l'arrestation au procès de nuit de Jésus, comme juste sa condamnation, sont des exemples frappants d'injustice de l'humanité envers le Christ. Mais on ne regardera pas juste les failles de la justice humaine. Ce matin, on va regarder aussi la conduite de Jésus face à l'injustice humaine. Comment Jésus réagissait? Ça doit être un modèle pour nous qui faisons face certainement à l'injustice. Mais enfin aussi, j'aimerais qu'on regarde que quand on va pointer le doigt à l'injustice des autres dans le procès de Jésus, qu'on puisse aussi se rappeler que Jésus a été condamné par des coupables, mais pour des coupables aussi. Quand on va pointer le doigt à la justice humaine pour dire « c'est coupable », on va se rappeler que il y en a trois doigts qui pointent aussi vers nous. Nous étions des coupables. Jésus-Christ est mort pour nous, des gens tout aussi coupables d'injustice. Si vous avez trouvé Luc chapitre 22, nous allons lire un texte assez long ce matin et pour regarder l'ensemble du procès de Jésus, pour en tirer des applications pour nous. Luc chapitre 22, je vais commencer au verset 52. Je vais lire de 52 à 54, et après ça, on va sauter au verset 63. Luc 22, 54, 52. Ça va? On va prier Dieu d'abord. Seigneur, c'est ta parole qui est devant nous ce matin. Nous allons regarder un moment difficile, particulièrement pour Jésus qui a subi l'injure, a subi l'injustice. Seigneur, donne-nous de réaliser que cette injustice, elle était aussi pour nous. Lui, le juste, a souffert pour des injustes afin de nous apporter à Dieu. Alors, Seigneur, donne-nous de regarder ces événements autour de Jésus. Seigneur, nous trouver à l'intérieur de ces événements comme le Jésus juste qui meurt pour nous, qui s'offre pour nous, qui reçoit l'injustice à notre place. Alors, Seigneur, bénis ta parole ce matin. Nous t'en demandons cette grâce au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 22, l'évangile de Luc, le verset 52. Nous sommes maintenant dans le jardin de Gethsémané. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, ceux qui étaient venus dans le jardin l'arrêter, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Sautons numéro 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé! » Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur sanhédrin. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Et il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignage? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. » Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendu parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen, et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » Je le relâchai donc après l'avoir châtié. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas !» Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus et ils crièrent, « Crucifie, crucifie-le !» Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'ils réclamaient, et il livra Jésus à leur volonté. Ce matin, on va voir que le procès de Jésus, en réalité, on dit le procès, mais il y en avait deux. Il y avait d'abord un procès religieux qui était conduit par les autorités juives, et l'autre, un procès civil qui était conduit par les autorités romaines. Vous avez un peu un plan de la ville de Jérusalem. Alors Jésus, ils ont changé les chiffres. En tout cas, merci. Il était blanc ce matin, puis on voyait rien. Et là, tout est bien beau. C'est merveilleux, ça. Il y aurait juste à mon affaire si ça marche. Et ça marche pas. Attends un petit peu, là. Je n'ai quasiment plus besoin, là. Ah, là, voilà, ça s'en vient faible. Mais Jésus était probablement dans la chambre haute. C'est la base ville de Jérusalem, où il a eu son souper. Après le souper, il est probablement quitté et il s'est allongé la vallée du Cédron et il s'est rendu au jardin de Gethsémané. C'est là qu'il a été arrêté, au jardin de Gethsémané. La troupe qui l'a amené à l'intérieur et jusqu'à la chambre du conseil, la maison du souverain sacrificateur. Sacrificateur, il y en avait deux. Il y avait d'abord le âne et Caïphe. Âne était le père, le beau-père de Caïphe. Âne était le plus vieux. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur était élu à vie. Mais ils ont passé une loi, comme ici, là, le gouvernement romain, qu'après 65 ans, il était trop vieux pour faire l'affaire. Fait qu'il l'a envoyé à la retraite. Alors, c'est ce qui est arrivé. Officiellement, Âne était à la retraite, bien qu'il était hautement considéré par les Juifs comme le souverain sacrificateur qui n'était pas mort encore. Et Caïphe, son gendre, était officiellement et légalement le souverain sacrificateur en ce moment-là. Alors, Jésus est amené du jardin de Gethsémané jusqu'à la chambre du conseil qu'on a vu dans le texte, la maison du souverain sacrificateur. De là, il est premièrement entretenu par Âne. C'est un homme, Âne. C'est un souverain sacrificateur. Il est probablement entretenu, mais lui, il n'a aucun pouvoir politique. Alors, on va voir tantôt qu'est-ce qu'il lui fait, mais c'est rapide avec Âne. Il n'y a pas de pouvoir. Alors, il l'envoie à Caïphe, qui, lui, est le souverain sacrificateur légal, qui a l'autorité du Sanhédrin. Et là, on va voir, pendant la nuit, il y a un premier procès, un peu caché. Parce qu'on ne peut pas faire des jugements et des procès la nuit, alors que personne ne le sait, il faut faire ça de jour. Alors, ce que l'on lit dans le livre de Luc, maintenant, après ça, on l'a vu, quand il fit jour, là, il a rassemblé. Là, il y a eu comme une ratification du procès qui avait été fait pendant la nuit avec Caïphe. Et là, pendant ce moment-là, après qu'il est à la chambre du conseil, il l'envoie à la forteresse d'Antonia. La forteresse d'Antonia est le prétoire, et là où le gouverneur romain habite. Le gouverneur romain s'appelle Pilate. Alors Pilate, il le rencontre à Antonia, et il veut pas le condamner. Et finalement, il apprend, comme on a vu dans le texte, les gens disent, il a commencé depuis la Galilée jusqu'ici à révolter le peuple. Il dit, Galilée, ben ça, c'est pas ma juridiction. C'est la juridiction de Hérode, le roi Hérode, Hérode Antipas. Alors, il dit, bien, allons le faire juger par Hérode. Alors, il l'envoie maintenant au palais d'Hérode. Hérode, ça, il l'avait pas vu, puis c'est un homme important. Jésus voulait qu'il fasse un miracle, puis Jésus... Il dit absolument rien. Fait que là, il le ridiculise, il le moque, il met un habit royal, puis il le retourne, il se moque du roi des Juifs en le retournant. Alors, du palais d'Hérode, Jésus retourne voir Pilate. Et là, Pilate, il n'a pas beaucoup de cartes maintenant à jouer. Il veut se débarrasser de Jésus. Il veut libérer Jésus, mais il n'a plus beaucoup de cartes à jouer. Il essaye ses dernières cartes. Ça ne marche pas. Et des mots importants dans le livre de Luc qu'on vient de lire. Leurs cris l'emportèrent. La pression des gens l'a emporté. Et là, Pilate cède Jésus au désir du peuple. Et là, il va être amené à Golgotha, à peu près 6, il va être crucifié là. Ça, c'est un peu notre espace quand on pense en général où va Jésus pendant la semaine de la Passion. D'abord, il est arrêté secrètement de nuit, comme on a mentionné, à l'aide d'un délateur. Qui est-il encore? Judas. Alors, il y a un code secret. Je vais l'embrasser, puis celui que j'embrasse, ben attrapez-le. Et on l'amène sans mandat, sans raison. Comment Jésus réagit? Dans le texte, il demande, il dit, « Ben voyons, pourquoi vous venez me chercher de nuit comme ça? Tous les jours, moi, je prêchais publiquement dans le temple. Pourquoi vous ne m'avez pas pris à ce moment-là? » Il demande la raison de son arrestation sans motif, sans mandat d'arrestation en tant que tel. Après ça vient l'interrogation devant Anne, devant le souverain sacrificateur. Anne, on ne l'a pas dans notre texte de Luc. Si on tournait dans Jean 18, les versets 19 à 23, on verrait ce moment avec Anne, comme j'ai mentionné, qui est le beau-père du souverain sacrificateur. Mais lui, il est bien reconnu des enfants d'Israël, des Juifs, mais il n'a aucune autorité formelle. Alors, le texte dans Jean nous dit qu'il l'interroge sur sa doctrine, puis sur ses disciples. Et puis, Jésus, il réaffirme encore, il dit, « Bien, si tu veux savoir qu'est-ce que j'enseigne, ça fait 3 ans que j'enseigne, demande à des témoins, que des témoins se présentent, puis qu'ils établissent ma culpabilité en quelque part. » Jésus demande qu'on fasse appel à des témoins, comme la loi le prescrit, pour établir une culpabilité quelconque. Et chez Anne, à ce moment-là, on frappe Jésus au visage, on se moque de lui et on dit « Hey, tu parles ainsi au souverain sacrificateur ». Mais Caïphe ne peut pas avoir d'autorité formelle, alors il va juste transmettre, ça se passe tout pendant la nuit, il va transmettre maintenant, il va dire à Jésus puis aux gens d'aller comparaître devant Caïphe. Caïphe, lui, est l'autorité fondamentale. Alors, pendant la nuit, Caïphe a rassemblé